Bonjour, Martine Vallon de France Nature Environnement et vous êtes accompagnée aujourd'hui de Mario Chabanon.
Oui, c'est cela. Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, oui, je suis venue avec un de nos administrateurs qui est plus particulièrement spécialisé, dirons-nous, dans notre association sur le travail, donc sur la thématique qu'on a choisi d'aborder, qui concerne le thème des déchets verts. Donc c'est un peu d'actualité puisqu'en ce moment, je pense qu'il doit y avoir encore de nombreux petits feux par-ci par-là qui sont mis en place par les gens qui continuent de brûler leurs déchets. Je pense que peut-être, bien que ça fasse maintenant quasiment 10 ans ou plus, je ne sais plus exactement, mais je crois que le premier texte date de 2011 et donc c'est dans le cadre de la lutte contre la pollution de l'air. En juillet 2010, le plan particules a été affiché en application de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement. Dans un premier temps, il y a eu une communication sur le sujet du brûlage à l'air libre. Ensuite, l'établissement d'un certain nombre de textes qui encadrent cette question-là. Et donc, j'ai l'impression parfois qu'aujourd'hui encore, bien des gens ignorent cette loi, ignorent ses obligations, qui sont des textes qui régissent cette pratique maintenant interdite. Si je recherche dans mes souvenirs sur ces questions de brûlage de déchets, je me souviens que mes beaux-parents qui habitaient Marseille avaient un petit jardin et le brûlage des feuilles était source de conflits entre eux parce que effectivement ma belle-mère était incommodée par la fumée et puis elle avait un grand respect de ses voisins et donc il y en avait toujours un qui râlait sur l'odeur, etc. Elle disait à mon beau-père, fais-le au fond du jardin ou bien fais-le aujourd'hui parce que monsieur machin n'est pas là. Enfin bon, c'était toujours un gros souci. Alors, sur cette question de loi, le brûlage des déchets verts, ça reste à l'origine, effectivement, des troubles de voisinage à cause de ces odeurs de fumée, par exemple, et puis des inquiétudes concernant la propagation des incendies. Donc aujourd'hui, la loi qui a été votée, il y a donc de nombreuses années, précise que ce brûlage est source d'émissions importantes de substances polluantes, des gaz à particules, de la dioxine aussi, et puis des particules aussi, donc de composés cancérigènes, des hydrocarbures aromatiques, etc. Ces substances toxiques peuvent aussi être augmentées lorsqu'il y a des brûlages de déchets qui ne comportent pas que des déchets verts, parce que parfois on en profite pour remettre de temps en temps quelques petits bouts de plastique à l'intérieur ou des choses comme ça, les résidus de ce qui a couvert le sol par exemple, etc. Donc aujourd'hui, c'est effectivement totalement interdit et il y a la possibilité d'être verbalisé et d'avoir une amende. Je crois que c'est 450 euros d'amende pour ceux qui contreviennent à la loi. Et donc cette loi, elle est décrétée, elle est organisée et ensuite elle fait l'objet d'un certain nombre de circulaires et notamment ensuite aussi, il y a les arrêtés préfectoraux qui régissent à l'échelle de chaque département et qui sont pris chaque année quasiment et qui régissent le texte en fonction du département et de ses caractéristiques. Donc on y reviendra un petit peu parce que par exemple, notamment chez nous, il y a des dérogations à la loi pour certains. Je le dis vite, les lavandiculteurs par exemple ont une dérogation dans notre département. Donc je vais repartir un petit peu sur l'arrêté de cette année, ce que nous dit notre arrêté 2020. Donc c'est l'article 2. En application du règlement sanitaire départemental, le brûlage des déchets verts produits par les particuliers, les professionnels et les collectivités est interdit sur l'ensemble du département des Alpes-de-Haute-Provence, quelle que soit la période de l'année. Les déchets verts comprennent les déchets issus des tontes de gazon, les feuilles, les aiguilles mortes, les tailles d'arbres et d'arbustes. Les déchets verts doivent être portés à une déchetterie, compostés ou broyés. Donc voilà, c'est quand même très précis et normalement chacun est censé le savoir. Alors sur ces cas-là, il y a des dérogations. Mario, peut-être tu as repéré les dérogations ou pas. J'ai trois Donc toujours dans notre arrêté préfectoral, il est déterminé à l'article 3 les cas dérogatoires. Donc trois cas de dérogation sont tolérés. Les résidus de l'activité agricole. Cependant, les résidus de paille ainsi que les résidus d'oléagineux, protéagineux et de céréales sont interdits de brûlage. Ce en quoi, donc, nous, on a encore une dérogation à la dérogation, puisque, en principe, la lavande, c'est de la paille. Ensuite, la dérogation concerne les rémanents de travaux forestiers, cela en fonction de la prévention incendie, c'est-à-dire qu'effectivement, lorsqu'il y a des repousses sur les forêts qui ont été déboisées, il y a des risques d'incendie. Donc là, il y a une dérogation, il y a la possibilité de brûler. Et puis, une troisième dérogation concerne les végétaux infectés, puisque bien sûr, le fait de les brûler est quelque chose qui assainit, en fait, et qui évite la propagation des bactéries. Il y a dans cet arrêté aussi tout un tas d'articles qui concernent tout ce qui peut être considéré comme du feu. Bon, la réglementation concernant les barbecues, la réglementation concernant les feux de la Saint-Jean, les feux de camp, etc. J'ai même appris, en relisant la totalité de l'arrêté, que l'utilisation des lanternes célestes, les lanternes thaïlandaises, est interdite toute l'année dans notre département. Donc voilà, évitons de faire la fête et d'envoyer des lanternes dans le ciel, hélas. Voilà, donc ça, c'est le cadre légal. Et donc, il y a ensuite aussi tout ce qui est les mesures de sécurité concernant donc le fait de ne pas situer le foyer près des arbres, etc. Et puis, les dates aussi sur l'année pendant lesquelles il peut y avoir une utilisation du feu ou pas. Donc il y a les dates de période très dangereuses. Et puis, donc, à partir du 15 septembre, les lavandiculteurs peuvent brûler les lavandes arrachées. Le CODIS doit être prévenu avant la mise à feu. Et donc il y a une réglementation. L'État ne doit pas dépasser 3 mètres de hauteur, doit être ceinturé d'une bande de terre retournée de sécurité. Et puis, éloigner le plus possible de toute végétation. Donc voilà globalement ce qui est la réglementation concernant les déchets. Donc peut-être, Mario, tu veux poursuivre ?
Oui, je peux éventuellement parler de ce qui se passe dans ma commune. Effectivement, Valensole, c'est une grande commune. Et la mairie fait des dérogations, accorde des dérogations, parce que les gens sont loin de toute possibilité d'amener dans la déchetterie ou de faire broyer. Personnellement, j'avais fait une demande d'un broyeur à la mairie qui ne l'a pas accepté, quoi. Donc des dérogations, beaucoup de brûlages dans la vallée qui ne sont pas du tout contrôlés. Et si on observe bien, une journée où il n'y a pas de vent, un petit feu de rien du tout peut vraiment empoisonner toute une vallée, quoi. Voilà à ce niveau-là et aux dérogations.
Oui, c'est vrai que il faut revenir sur cet aspect de pourquoi l'interdiction, parce que effectivement, à l'heure actuelle, on dit bon ben voilà, vous avez l'obligation d'amener en déchetterie, etc. Donc et pour les gens, ça paraît être quelque chose de lourd et de difficile à gérer. Or, il faut savoir quand même que effectivement, si vous avez eu l'occasion de vous approcher d'un feu de brûlage de déchets verts, donc des feuilles qui commencent à se pourrir ou bien des branches totalement vertes, la fumée qui s'en dégage est extrêmement forte, violente, très âcre. Enfin, quand on respire ça, on se rend bien compte que ça n'est pas très agréable et que ça ne doit pas être extrêmement bon pour la santé. C'est vrai qu'on on sent l'agressivité de cette fumée. Et donc, effectivement, la quantité de produits nocifs qui est ainsi rejetée dans l'atmosphère, sans parler de l'histoire aussi de l'augmentation gaz carbonique, etc. Donc c'est vraiment énorme. Et donc, il est important d'avoir conscience de ça pour comprendre effectivement l'intérêt de cette interdiction. Donc après, la question se posera de comment on fait, qu'est-ce qu'on en fait. Je voudrais dire que, quand on habite en ville, effectivement, la seule solution, c'est la déchetterie. Pour nous, les choses sont parfois un peu... Bon, quand on est dans un petit village, on peut faire... On peut avoir un tas de branches dans un coin, un tas de feuilles qui pourrit doucement. Enfin bon, c'est un peu... C'est peut-être plus facile à gérer dans un département comme le nôtre que dans une grande métropole où, en effet, les gens sont peut-être... plus coincé, enfin je veux dire, quand on a un tout petit jardin de quelques mètres carrés, on ne peut pas s'amuser à conserver les déchets s'ils ne sont pas traités un petit peu, c'est-à-dire au minimum broyés, ou bien, mais on peut aller les amener à la déchetterie, à mon avis, il y en a quand même d'assez proches.
Oui, pour un peu dissuader les gens qui sont encore sceptiques par rapport au fait que de brûler, c'est polluant, on peut faire la comparaison. 50 kilos de déchets verts qui sont brûlés, ça correspond à environ à faire 14 000 kilomètres avec une voiture à essence neuve. Donc, ça donne une idée de la chose, quoi.
Alors, on va peut-être faire une petite pause et puis ensuite, Mario, tu reprendras sur l'aspect qu'est-ce qu'on peut faire donc avec ces déchets verts, tout ce qui est autre solution.
En matière de recyclage, nous avons le papier, le verre, le plastique et le métal. Le papier, le verre, le plastique et le métal. T'as le papier, le verre, le plastique et le métal. T'as le papier, le verre et le plastique. Tu peux lever la tête, regarder ta planète, dire qu'elle est belle et voir qu'elle n'est pas nette. La terre désormais est souillée, délaissée. Les hommes ont oublié
le sens du mot respect.
Tu peux faire quelque chose, avoir un éco-geste. N'importe quel âge.
Quoi ? Faire du recyclage.
Il s'agit de trier nos déchets ménagers.
Si tout le monde s'y met,
c'est sûr, c'est gagné. Un vrai défi pour la terre.
Le métal, t'as le papier, le verre, le plastique et.
T'as le papier, le verre, le plastique et le métal. T'as le papier, le verre, le plastique et. Déchets organiques, toxiques ou ménagers, trier est un acte volontaire et engagé.
En suivant des consignes simples à respecter.
Il s'agit de bien trier si l'on veut recycler. Choisir plutôt des produits
biodégradables.
C'est mieux pour la nature
et bien plus acceptable.
Des piles rechargeables.
Des LED pour s'éclairer. Au fond, c'est pas plus cher
et on évite de polluer. Je voudrais vous rappeler, avant d'aller acheter, que l'on peut éviter des milliers de déchets. Éviter le jetable. Le suremballé, préférez le durable, en vrac ou recyclé. Il s'agit de réduire, de réutiliser, réparer pour prolonger,
donner avant de jeter.
Il s'agit de changer notre façon de penser, si l'on veut réconcilier nature et progrès. Un vrai défi pour la terre.
Thank you.
le plastique et le métal, t'as le papier, le verre, le plastique et
t'as le papier, le verre, le plastique et le métal, t'as le papier, le verre, le plastique et
bouteilles en plastique pour une veste polaire.
À peine 700 canettes pour faire un vélo.
C'est dit recitrier, revient économique.
C'est pas toujours pratique, mais c'est un geste solidaire.
Et puis il y a ces déchets qui sont de vrais dangers.
Toxique, corrosif, à ne pas mélanger.
Huile décapant, produit inflammable.
Où la déchetterie devient incontournable.
Ne faut-il pas redonner un juste sens au progrès? Il est temps de réagir au nom de l'avenir. À la maison, au jardin, au collège ou au bureau, un geste responsable est un acte dispensable. Pour voir comment se nourrir, filtrer l'eau du robinet, choisir pour écrire du papier recyclé, c'est vouloir repartir, éviter de gaspiller.
Ensemble reconstruire
un monde qui peut durer, un vrai défi pour la Terre.
Le papier, le verre, le plastique et le métal, t'as le papier, le verre, le plastique et...
T'as le papier, le verre, le plastique et le métal, t'as le papier, le verre, le plastique et...
Et il y a aussi les déchets verts.
Le plastique, le métal, mais aussi les déchets verts. Donc Mario va un peu expliquer qu'est-ce qu'on peut faire quand on se retrouve comme ça, avec son gros tas de tontes de gazon, de petites branches coupées de nos arbres, de notre haie, etc. Et puis parfois, ça peut être beaucoup, des gros tas de branches. Enfin, moi, je ne parlerai pas de ma situation, mais j'ai parfois de très gros tas de branches. Heureusement, il y a beaucoup de place chez moi, donc je peux les laisser tranquilles, se mûrir et faire leur chemin toutes seules dans leur coin. Mais ce n'est pas forcément le cas dans tous les petits jardins. Alors, c'est vrai que un point sur lequel, quand même, avant de prendre, de partir là-dessus, je voulais réinsister, c'est que la plupart des textes de ces arrêtés préfectoraux sont extrêmement liés avec le souci de la prévention incendie, donc, et de ce que les feux peuvent entraîner comme risque, notamment dans nos régions, concernant les incendies. Mais il n'y a pas que la prévention incendie. Donc, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est ça aussi, c'est que le brûlage entraîne trop de pollution qui attaque la santé humaine. Donc, c'est une prévention santé aussi. Et il est important de bien penser à ça et de bien comprendre que ça n'est pas pour rien que cette interdiction s'est mise en place, et c'est à la suite d'études et de recherches qui démontrent qu'il y a un réel risque à respirer ce type de produit. Donc voilà, donc je suis dans mon jardin, j'ai fait un gros tas de déchets verts, et qu'est-ce que je peux en faire? Au secours, Mario.
Bon, voilà, pour aller dans le sens de Martine, voilà, si vous avez dans votre terrain un petit coin où vous pouvez entasser vos branchettes, vos feuilles, vos tontes de gazon, eh bien, ce sera un paradis pour les hérissons, les lézards, les crapauds, les oiseaux, toute une faune qui viendra se loger là et qui va s'occuper de vos limaces, criquets et autres prédateurs au niveau du potager. Bon, après, il y a d'autres solutions, bien sûr, en particulier celle du broyage. Donc, il y a différentes possibilités pour broyer. Certaines communes vous donnent l'accès à sa décharge, et vous pouvez apporter vos déchets verts et éventuellement repartir avec ou du compost ou du broyat. Ce fameux broyat qu'on appelle de nos jours BRF. BRF, c'est une technique qui a été développée au Québec depuis plusieurs années. Alors ça veut dire bois raméal fragmenté, BRF. Donc ça correspond au broyat en vieux français de chez nous. Avec ce broyat, on peut faire tout un tas de choses. On peut créer des allées dans le potager ou même dans votre terrain. Les endroits où vous circulez beaucoup, par exemple, si votre terre est un peu terre glaise, un peu boueuse, ça vous permet de pouvoir marcher sans vous salir les pieds. Et c'est très esthétique parce que ça tranche avec le vert de l'herbe et ça fait des allées à la fois sympathiques. Dans le potager, personnellement, je l'utilise beaucoup. À l'automne, en couverture, ça permet de garder la vie dans le sol, ça limite les adventices, donc les herbes, on va dire les herbes indésirables, hein, les adventices. Ça finit par se dégrader, le broyat finit par se dégrader, et ça vous constitue une terre très riche et prête à être travaillée à la fin de l'hiver.
Alors, ce que je peux rajouter là-dessus, c'est qu'effectivement, cette forme d'utilisation est quelque chose qui reprend tout à fait le schéma normal de fonctionnement de l'écosystème naturel. C'est-à-dire que dans une forêt, on a les branches qui tombent sur le sol, qui commencent à se désintégrer et à pourrir. Donc il y a un tas de petites bactéries, de petits insectes, etc., qui attaquent le bois et qui le transforment. Et ensuite, ce bois qui se délite et qui se détruit s'intègre au sol et vient apporter des éléments d'enrichissement du sol et des éléments d'allègement du sol aussi, etc. Dans nos secteurs où il y a beaucoup d'argile, utiliser le BRF, ça permet de faire évoluer la terre de son jardin aussi progressivement et d'arriver à avoir une terre beaucoup plus jolie, beaucoup plus riche et légère. Donc c'est tout bénéfice.
Dans le potager, je vous disais que je l'utilise beaucoup. Donc quand je fais mes plantations à la fin de l'hiver ou au début du printemps, autour de mes salades, autour de mes différents plants, je distribue mon BRF, je le mets en une couche assez épaisse, ce qui maintient une certaine humidité permanente sous les plants. Donc ça limite l'arrosage. En plein été, quand il fait très chaud, le soleil craquelle la terre, alors que là, la terre est protégée. Et il y a toujours une vie de bactéries, de microbes, de petites bêtes qui viennent s'occuper du compost et qui viennent... après, par leurs déchets, alimenter vos plants. Ça permet aussi de limiter, comme on disait, les mauvaises herbes, et vous avez moins à travailler votre terre, et on peut la laisser tranquille pendant un moment, et aller faire la sieste.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec toutes les nouvelles théories concernant le jardinage, tout ce qui est fabrication de buts de
lasagnes, ils appellent ça.
Les lasagnes, oui.
Les lasagnes beds, c'est ça, hein, oui. Parle avec la fleur de pierre.
Oui, c'est ça. Donc, effectivement, le déchet vert broyé, donc le BRF, est utilisé pour fabriquer ces buts spécifiques donc, d'agriculture. Le terme m'échappe là à l'instant. La grande mode à l'heure actuelle, la permaculture, voilà, la permaculture, donc qui utilise beaucoup justement ce bois, donc soit avec le système de lasagne et donc les buttes qui sont fabriquées à partir de couches différentes. Mais aussi un autre système qui consiste à creuser une petite fosse au fond de laquelle on mettra du bois qui commence à se décomposer, des bois récupérés en forêt qu'on broie et qu'on met dans le fond et qui va apporter justement cet allègement de terre et qui va permettre, par sa dégradation lente et progressive, à la fois de réchauffer un peu le sol, donc par puisque le phénomène de pourrissement entraîne de la chaleur, donc de réchauffer la terre, donc de maintenir une température dans des endroits qui sont froids et qui font que les plantes pérennes ont du mal à tenir le coup. Donc là, ça va un peu réchauffer et puis ça va donc apporter aussi des nutriments, etc. Et ça permet donc la grande théorie un peu magique de la permaculture, c'est aussi de dire que on utilise donc le fonctionnement naturel de l'écosystème végétal. Pour avoir le moins de travail possible à faire en termes de jardinage et que avec ces buts-là, on a des plantes qui vont rester, qui sont pérennes et qui vont rester des années sans problème. On a celles qui vont se reproduire toutes seules en faisant tomber leurs graines, etc. Enfin, on recrée des espèces de petits mondes complets à partir d'une simple butte avec ses différents étages de végétation, etc. Donc c'est quelque chose d'assez fabuleux. Et effectivement, les déchets verts donc, viennent pour permettre ça.
Après les déchets verts broyés, on peut les utiliser au compost.
On va peut-être refaire une petite pause avant que tu parles du compost et de la suite. Et moi, j'en profiterai pour m'en aller puisque j'ai d'autres obligations. Donc, je vous dis au revoir pour l'instant.
Mon ami est parti. Il est parti pour toujours. Mais moi, je suis en vie. Fais battre ton tambour, fais-le bouger ce corps. Donne-lui du bonheur, que demain je danse encore, que je n'ai plus peur. Fais battre ton tambour. Sonne ton tambour jusque dans mes pieds. Je sens les larmes qui montent, mais je vais pas pleurer. Je sens la peine qui gronde. Je vais la chanter comme un tel. Come and take my pain away. Fais battre ton tambour. Fais-moi danser. Qu'il sonne ton tambour jusque dans mes pieds. J'ai la gorge qui se come and take. come and take my pain away. Come and take my
Voilà, c'était Émilie Loiseau, Fais battre ton tambour. On revient avec ses déchets verts et ce qu'on peut en faire, donc l'utilisation du broyat.
Oui, je voulais vous parler du broyat qu'on pouvait mélanger avec son compost et ses déchets de table. Ce que je peux faire, par contre, c'est revenir sur le broyat. Comment obtenir du broyat ? Donc, on peut amener ses déchets verts à la déchetterie. Certaines déchetteries ont un broyeur et broient sur place. Et on peut récupérer ou du broyat ou même du compost qui a été fait sur place. Mais sinon, on peut essayer avec ses voisins, si on s'entend bien, ou avec des personnes avec qui on a de bons rapports et qui ont un jardin comme vous. On peut essayer de louer un broyeur à plusieurs comme ça. Et vous pouvez même acheter un petit broyeur. De toute façon, on broie les petites branches qui sont de 3 ou 4 cm. Et puis les autres, elles peuvent aller au feu, à la cheminée. Hein. Sinon, on peut aussi broyer. Je sais que j'ai un ami qui avait fait ça. Il constituait des andains avec ses branches. Et il avait adapté une lame spéciale sur sa débroussailleuse. Et il pouvait broyer ses branches comme ça, et il me disait que ça marchait bien, quoi. Voilà. Il faut que je dise qu'il y a la possibilité de louer un broyeur à l'association J'espère, à Digne. Je sais que si vous êtes plusieurs personnes à vouloir broyer, vous pouvez, pour quelques euros, louer ce broyeur, et ça vous permet de pas vous déplacer et de faire les choses le plus possible dans la protection de l'environnement. Voilà. Alors donc on peut faire du compost avec le broyat en mélangeant avec les déchets de table, ce qu'on appelle les déchets de table. Ce sont les fermentescibles ou les déchets organiques. Ça a plusieurs termes, mais ça signifie la même chose. Déchets de table, je trouve que c'est assez représentatif. Alors, il y a un fameux rapport carbone-azote à respecter pour bien faire, pour bien conduire son compost. Ce rapport, il est de 2/3, 1/3 environ. Donc l'azote, c'est tout ce qui est déchets de table, et le carbone, c'est tout ce qui est ou BRF, ou vous pouvez mettre du carton propre, sans scotch ni encre, des boîtes à œufs, de la paille, sans pesticides, c'est assez rare, et vous pouvez mettre aussi des copeaux de bois pour constituer donc la partie carbone dans le compost. Bon, il faut savoir que selon les saisons, ce rapport carbone-azote peut varier parce que bon, ben en été il fait chaud, c'est vrai, il y a plus de vent, peut-être aussi du mistral, mais on a beaucoup plus de déchets qui sont liquides. Hein, il y a beaucoup plus de fruits en été, il y a beaucoup plus de fruits et de légumes qui apportent de l'humidité. Donc, en fait, il faut toujours le surveiller, ce composteur. Il faut le surveiller, il ne faut pas qu'il soit trop humide, il ne faut pas qu'il soit trop sec. On donne une idée. L'idéal, c'est comme si vous aviez une éponge que vous avez essorée. Il faut que ça ait toujours cet aspect-là. Et il y a une chose importante aussi, c'est régulièrement le retourner. Pour mélanger, il y a toujours des parties sèches, parce que sur les parois, certains composteurs ont des parois trouées. Et selon si vous le situez trop au soleil, trop au vent, ça, les parois se dessèchent. Donc il faut remuer, mélanger, il ne faut pas qu'il y ait de parties trop sèches, et, ni de parties trop humides. Donc le surveiller assez régulièrement, avec une fourche, le remuer. Il faut savoir qu'on peut avoir plusieurs types de composteurs. Ils s'en vendent, ou dans certaines communes, les donnent ou les font payer, je crois, 150 ou 200... 150... Non, je dis des bêtises. 15 ou 25 euros. Donc ce sont des sommes assez faible, mais ces composteurs, ils ont tendance à... Bon, il faut les mettre pas trop au vent, pas trop au soleil, parce que ça dessèche vite à l'intérieur. Et après, les gens qui veulent composter comme ça, ben, ils sont déçus parce que ça marche pas trop bien. Donc, c'est très important. L'idéal, moi je dis, en été, il faudrait qu'il soit à l'ombre, et en hiver, il faudrait qu'il soit au soleil, parce que... toutes les petites bestioles qui se développent après. Une fois que votre compost est assez mûr, il y a des animaux qui viennent, les lombriques, les myriapodes, tout un tas de petits animaux qui viennent manger, qui se nourrissent du déchet de compost. Il y a même des gros vers de cétoine, des vers qui sont gros comme le petit doigt pratiquement. Et puis il y a même, moi j'ai eu trouvé, des vers de lucane cerf-volant. Vous savez, ces gros insectes qui volent, on le voit en plein été, là, qui ont du mal à décoller, tout ça, qui font beaucoup de bruit. Et bien ils ont un ver blanc qui est très gros, qui est de la grosseur de mon pouce à peu près. Et c'est impressionnant. Mais il faut savoir que ces vers, ben, ils sont utiles, c'est pas la peine de les tuer, on les laisse faire. De toute façon, des fois, dans le lombricomposteur, il y a des orvées qui viennent, qui se chargent de les éliminer de toute façon. La nature, elle est bien faite et elle sait bien équilibrer son affaire. Voilà, donc par rapport au compost, donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que quand votre compost est mûr, au bout de 4-5 mois, vous le laissez tranquille. Vous le laissez faire. Les bestioles, ils viennent, les lombriques viennent finir le boulot, et voilà, vous pouvez le laisser tranquille. Alors l'idéal, bien sûr, c'est d'avoir deux composteurs, parce que pendant qu'il y en a un qui se tient tranquille, ben l'autre, vous pouvez recommencer à faire un compost. Ce que je conseille de faire aussi, c'est de mettre un grillage dessous. Donc le mettre à même le sol, mais entre le sol et le composteur, c'est bien de mettre un petit grillage d'une section de les mailles de 1 cm. Comme ça, les souris et les rats sont dissuadés d'aller manger les lombriques, parce que les souris se nourrissent de lombriques en plein hiver quand ils n'ont plus rien à manger. Voilà, alors ce que j'avais à dire à peu près sur le compost... Il se crée des associations qui réunissent à Fleur de Pierre, le fait très bien sur Digne, des gens qui veulent composter leurs déchets de table. Eh bien, ils peuvent l'apporter à cette association. Peut-être qu'on pourra dans un deuxième temps leur donner les coordonnées de cette association. Voilà, je sais que moi je suis dans la commune de Valensole, il se crée aussi des démarches dans ce sens-là pour essayer localement, comme ça on n'a pas de transport, on n'a pas à mener à la déchetterie, nos déchets de table ne sont pas enfouis, parce qu'il faut savoir que maintenant, une fois que vous avez trié vos verres, vos cartons, vos métaux, la poubelle, je ne sais plus comment elle s'appelle, la poubelle jaune ou la poubelle grise dans certaines régions, ben, qu'est-ce qui pèse le plus dans votre poubelle ? Ben, ce sont les déchets de table. Une fois que vous avez enlevé tout ça et que vous utilisez vos déchets de table ailleurs que dans votre poubelle, parce que dans la poubelle ils vont être enfouis ou dans certaines régions incinérés, c'est quand même bien dommage, eh bien, votre poubelle, elle ne pèse plus rien du tout, quoi, hein. Quelques papiers sales, quelques plastiques qu'on ne sait pas trop où mettre. Moi, je dois dire que je me suis amusé à peser ma poubelle. Nous sommes deux dans notre foyer. On fait moins de 50 kilos par an de notre poubelle. Donc, ça vous donne une idée. J'avais une amie il y a 5-6 ans qui me disait qu'elle arrivait à cette performance. J'avais du mal à la croire. Puis en fait, quand on fait un peu des efforts, quand on s'y met, on arrive à réduire sa poubelle qui est enfouie grandement. Voilà. Donc après... je voulais parler un peu de la façon de constituer un composteur. Bon, on peut avoir ces composteurs qu'on trouve ou dans le commerce ou qui sont fournis par les communes, mais on peut tout simplement, dans un coin de son jardin, essayer de mettre trois petits murets ou des planches. Et puis, sur le devant, on fait un système de glissière où on peut mettre ces planches. Et au fur et à mesure que le niveau du compost monte, eh bien, on relève les planches. Pardon. Et ce qui facilite avec la fourche pour retourner son compost. C'est plus facile que dans une grande un composteur qui est un peu haut. Voilà, ces composteurs faits avec des déchets de plastique, ils sont un peu hauts et pour mettre la fourche, c'est un peu difficile, quoi. Alors que si on se fabrique un composteur soi-même avec des planches, donc des planches sur trois côtés qui sont fixes, et des planches devant, si elles ont 10 ou 15 cm de haut, au fur et à mesure, vous mettez vos planches sur le devant, et ça vous permet de facilement retourner votre compost. Voilà pour le compost et le broyat. Les utilisations du broyat, donc on en a parlé.
Ça va être le moment de nous quitter. De toute façon, il reste deux petites minutes. Est-ce qu'il y a des choses... importante dont vous n'avez pas eu le temps de parler?
Oui, bon, ben, ce que je voulais parler, c'est du changement climatique. Maintenant, on sent bien que ça nous presse de plus en plus. Et je pense qu'il faut réfléchir à l'utilisation de l'eau. Peut-être planter des espèces, des arbres qui vont fournir un humus qui permettra au sol de mieux garder l'humidité. Et capter de mieux en mieux la pluie. Parce qu'on s'aperçoit que les pluies sont de plus en plus rares. Et il faut absolument réfléchir là-dessus. Je pense à ça parce qu'il est question que le plateau de Valensole soit irrigué avec de l'eau du Verdon. Et je dois dire que nous, Association de l'Environnement, on est assez sceptiques par rapport à cette utilisation. Pourquoi irriguer des lavandes qui ont toujours poussé sans eau? Pourquoi irriguer du blé ou des céréales qui ont souvent poussé sans beaucoup d'eau? Il y a un paradoxe qui nous semble... Voilà. Alors, je pense qu'il vaudrait mieux utiliser cette eau pour peut-être apporter de l'humus sur le plateau, essayer de planter des branches, des arbres qui apportent plus de qui maintiennent l'humidité et qui aident la terre à réagir toute seule. Et
pour revenir au plateau de Valensole, on parle beaucoup aussi de replanter des amandiers. Est-ce que ça nécessite beaucoup d'eau?
L'amandier, normalement, n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Mmh. Avant, il y en avait beaucoup sur le plateau de Valensole. Et oui, c'est une des bonnes idées.
Mmh. Mario Chabanon, merci. Et puis, je rappelle qu'on retrouve cette émission sur notre site fréquencemistral.com dans un moment pour la Terre. À bientôt. Au revoir.